L'accent des autres vous accompagne comme chaque semaine. Bienvenue, voici l'essentiel de l'actualité francophone de ces derniers jours avec les médias francophones publics, France Inter, RFI, la Radio-Télévision Suisse, Radio-Canada et la RTBF. Il va d'abord être question cette semaine de cette mobilisation des habitants de Bukavu en République démocratique du Congo, intitulée mobilisation pour soutenir le docteur Mukwege.
Oui, le Nobel de la paix 2018, reconnu pour son travail auprès des femmes victimes de viols, se dit menacé de mort depuis plus d'un mois.
En Belgique, Sophie Brems, la mort d'un ressortissant slovaque qui remonte à plus de 2 ans fait beaucoup de bruit ces derniers jours.
Parce que Joseph Chovanec a été sérieusement malmené par la police à l'aéroport de Charleroi avant de mourir. Les images de cette intervention policière sont récemment sorties dans la presse.
Et puisqu'on parle de la presse, c'était l'ouverture cette semaine en France du procès des attentats islamistes de janvier 2015. 17 morts au total et notamment au sein de la rédaction de Charlie Hebdo, Éric Delvaux.
Oui, et pour l'occasion, l'hebdomadaire satirique vient de republier à sa une les caricatures de Mahomet, les mêmes dessins qui avaient mis le feu aux poudres dès 2006.
Au Canada, Mathieu Goyer, une statue de l'ancien Premier ministre MacDonald renversée par des militants antiracistes à Montréal et ça suscite de sérieux débats.
Que faire avec les symboles du passé colonialiste du pays? Au Canada, on ne s'entend pas sur l'avenir des statues et l'effigie du tout premier ministre du pays.
Enfin, en dépit d'un nombre de cas Covid en augmentation, la Suisse poursuit son déconfinement, Pierre-Anne Chauffard.
Dès le 1er octobre, les manifestations de plus de 1000 personnes seront autorisées. C'est donc le retour d'un vrai public dans les stades et autres patinoires.
Direction l'est du Congo, donc tout d'abord, plusieurs centaines d'habitantes et habitants de la province du Sud Kivu ont donc manifesté ce jeudi. Amélie, ils sont inquiets quant à l'avenir du docteur Denis Mukwege.
Oui, ce gynécologue devenu célèbre dans le monde entier pour son combat contre les violences sexuelles dont sont victimes des générations de femmes congolaises, affirme recevoir depuis la fin du mois de juillet des menaces de mort, dirigées aussi contre sa famille. Ces menaces ont commencé selon lui après un tweet dans lequel il a dénoncé un massacre de villageois dans sa province. Jeudi, pour le soutenir, des femmes survivantes soignées par le docteur Mukwege ont apporté des dons dans sa clinique de Panzi.
Pour nous, c'est vraiment comme si on était en train de remuer les couteaux dans notre plaie. Parce que le docteur Mukwege, c'est un héros pour nous. Nous ne pourrons plus jamais accepter qu'il y ait de menaces sur lui. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous nous levons.
Et pour la première fois depuis fin juillet, le docteur Mukwege s'est exprimé devant ses patientes en swahili.
Quand nous disons la vérité, nous ne pouvons pas avoir peur. Nous pouvons être contestés, être chassés comme des oiseaux. Mais si nous savons que nous sommes dans la justice, nous y resterons.
La justice pour les victimes, c'est l'autre combat du prix Nobel de la paix 2018. En début de semaine, le docteur Mukwege a appelé les députés européens à le soutenir dans son plaidoyer pour la mise en place par l'ONU d'un tribunal pénal international pour juger les crimes commis en RDC depuis les années 90.
En Belgique, à présent, cette affaire qui fait beaucoup de bruit depuis une quinzaine de jours, Sophie Brems, il s'agit de l'affaire Chovanec, du nom d'un ressortissant slovaque.
Oui, il y a 2 ans, Joseph Chovanec est à l'aéroport de Charleroi, il rentre chez lui, mais suite à un comportement jugé agressif, il est débarqué et c'est là que ça se corse. Des images qui viennent de sortir dans la presse, 2 ans après les faits donc, montrent que l'homme est malmené. Un policier appuie sur sa poitrine, une autre fait un salut nazi. L'homme décède finalement à l'hôpital. Sa veuve estime qu'il est mort avant son transfert.
Je suis sûre qu'il est mort dans la cellule. Ça, j'en suis certaine. Je pense qu'il a été étouffé par la police.
Et depuis que ces images sont sorties dans la presse, c'est l'écœurement, l'incompréhension, personne n'a été mis en cause à ce stade. Aucun responsable, plusieurs ministres ont été entendus ces derniers jours par les députés, et en particulier le nationaliste flamand Yann Jambon. Il était ministre de l'Intérieur au moment des faits. Il dit n'avoir pas été mis au courant de la gravité des faits.
Personnellement, je savais qu'il y a un dossier avec un rapport de police. Là, dans ce rapport, il n'y a rien mis, ni la salutation de nazis, ni l'utilisation de violence. Donc c'est maintenant aux instances judiciaires de traiter ce cas.
Même son de cloche du côté du patron de la police fédérale. Bref, personne ne savait, l'instruction se poursuit et pas mal de questions restent encore sans réponse dans cette affaire.
En France à présent, c'est un procès qui va durer 2 mois et demi. 5 ans après la vague d'attentats qui a fait 17 morts, le procès de ces attentats de 2015 s'est ouvert à Paris. C'est le procès en réalité des complicités présumées puisque les terroristes ont été abattus par les forces de l'ordre. Et c'est le moment qu'a choisi l'hebdomadaire Charlie Hebdo pour republier à sa une, comme en 2006, les caricatures de Mahomet, les mêmes qui avaient valu aux journalistes de Charlie de vivre sous la menace terroriste. À l'époque de la tuerie, en janvier 2015, le ministre français de l'Intérieur s'appelait Bernard Cazeneuve. Et 5 ans après, pour lui, malgré les risques, il ne faut pas renoncer au droit à la caricature.
La liberté d'expression est une et indivisible, comme la République. Et aucune violence s'exerçant à l'encontre de notre pays, à l'encontre de ceux qui incarnent la liberté d'expression. Je profitais de cette question pour m'adresser à nos compatriotes de confession musulmane. Il est important de leur parler. Avant que Charlie Hebdo ne publie ses caricatures, ils ont publié d'autres articles et d'autres caricatures qui concernaient d'autres religions et qui ont pu faire débat, notamment la religion catholique. Ce n'est pas par hostilité, mais c'était tout simplement pour bien matérialiser que dans notre pays, on a le droit de s'en prendre aux religions, on a le droit de dire ce qu'on en pense. On n'a pas le droit de s'attaquer à quelqu'un en raison de sa foi. L'article 31 de la loi de 1905 ne le permet pas, mais on a le droit de s'attaquer. Ils ne l'ont pas cherché.
Voilà donc l'ancien ministre français de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve.
L'accent des autres, avec les médias francophones publics.
Des manifestants antiracistes qui déboulonnent une statue de John A. Macdonald, ancien premier ministre canadien. Ça s'est passé dans le centre de Montréal le week-end dernier. Ce n'était pas la première fois que cette statue était vandalisée. Mathieu Goyer, pourquoi des manifestants s'en sont-ils pris à cette statue?
Il faut savoir d'abord que John A. Macdonald, je disais, fut le premier premier ministre du Canada de 1867 à 1873, puis de 1878 à 1891. C'est un des pères fondateurs du pays. Or, John A. Macdonald était aussi responsable des affaires autochtones. Son gouvernement a provoqué des famines délibérées chez les Premières Nations. Il a forcé aussi les Autochtones à vivre dans des réserves sans le droit d'en sortir. C'est lui aussi, John A. Macdonald, qui a créé le système des pensionnats autochtones qui arrachait les enfants des Premières Nations à leur famille. John A. Macdonald, né au Royaume-Uni, avait également une aversion profonde des francophones. Bref, un personnage controversé de l'histoire canadienne.
Oui, et le déboulonnement de cette statue donc à Montréal, ça a soulevé, Mathieu, un tollé au sein de la classe politique.
Autant des élus conservateurs que progressistes ont dénoncé ces gestes, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, croit que la statue devrait être accompagnée d'une mise en contexte historique. Le premier ministre du Québec, François Legault, croit pour sa part que la statue doit être restaurée. Et Justin Trudeau, le premier ministre canadien, a lui aussi condamné ces gestes tout en reconnaissant que l'héritage de John A. Macdonald était controversé.
Oui, cela dit plus largement, d'un bout à l'autre du pays, un débat est en cours sur l'avenir des statues de ce premier ministre.
Tout à fait. Dans plusieurs villes canadiennes, des militants antiracistes et autochtones réclament que soient retirés de l'espace public les statues de John A. Macdonald. On en trouve encore plusieurs au Canada, toujours bien debout. La ville de Victoria, sur la côte ouest, en Colombie-Britannique, a accepté, elle, de retirer sa statue en 2018.
Oui, et ce débat, il a duré tout l'été en France. Autour de cette question, c'est toujours la même. Pour ou contre le déboulonnage de statues de personnages qui ont participé à l'esclavage, Eric?
Oui, avec d'un côté ceux qui ne voient pas pourquoi on laisse de telles statues trôner dans les villes, comme si on laissait la part belle au passé esclavagiste de la France. Et de l'autre, ceux qui appellent à ne pas confondre histoire et mémoire. L'histoire appartient au livre, la mémoire, ce sont les traces que l'on garde de notre passé commun, y compris dans les rues. Or, supprimer cette mémoire esclavagiste, ce serait prendre le risque d'oublier et donc de recommencer les mêmes catastrophes. Le débat en France est loin d'être refermé.
Oui, il n'est pas refermé non plus. En Belgique, Sophie, il a éclaté ces derniers mois, un peu avant les 60 ans de l'indépendance du Congo.
Oui, le Congo, ancienne colonie belge, un débat très vif s'est alors installé sur la mémoire du colonialisme. Certains ont vandalisé des statues du roi Léopold II, considéré comme un tyran sanguinaire à l'égard des Congolais. D'autres demandent que ces statues soient même retirées de l'espace public. la figure du deuxième roi des Belges reste très controversée.
On va se quitter en Suisse cette semaine, Pierre-Anne, avec vous et avec le déconfinement qui se poursuit. Le gouvernement l'a annoncé mercredi dernier. À partir du 1er octobre, les manifestations de plus de 1000 personnes seront à nouveau autorisées, mais sous conditions très strictes.
Il faudra en effet soumettre aux autorités un plan de protection avant toute rencontre sportive, concert ou congrès. Par ailleurs, le public devra rester assis à une place attribuée pour diminuer les contacts et faciliter le traçage en cas de cas positif dans l'assistance. Et puis bien sûr, l'évolution épidémiologique dans une région pourra conduire les autorités locales à interdire à nouveau de tels rassemblements.
Oui, on l'a compris, c'est donc une ouverture prudente et contraignante.
Oui, et c'est aussi le cas pour la reprise des championnats de football et de hockey sur glace. Dans ces arènes sportives, seuls 2/3 des sièges pourront être vendus, ce qui posera plus de problèmes dans les patinoires, plus petites que les stades de foot et surtout régulièrement bondées avant l'épidémie. Raphaël Berger dirige les hockeyeurs de Fribourg-Gotteron. Pour lui, cette reprise compliquée, c'est mieux que rien.
À un moment donné, on doit prendre ce qu'on nous donne, on doit mettre en place des concepts qui sont effectivement déjà très stricts, les appliquer au mieux et débuter de cette manière-là, tout en sachant qu'encore une fois, financièrement, ça va être très très compliqué et qu'il y aura des énormes manques à gagner pour tous les clubs.
Des difficultés encore plus insurmontables pour le monde du spectacle. L'incertitude paraît bien trop grande pour des manifestations qui s'organisent très à l'avance et dont le budget tourne essentiellement sur la billetterie, à tel point que de grands événements comme le Festival de jazz de Montreux s'interroge sur l'annulation pure et simple de l'édition 2021.
Oui, encore une question. Peut-être, Pierre-Anne, vous nous parliez la semaine dernière de la France qui pourrait éventuellement passer en liste rouge. Qu'en est-il ?
C'est vrai. Je ne peux que vous citer notre ministre de la Santé en conférence de presse. Il a dit « Nous avons décidé de prendre encore le temps d'analyser la situation. » C'est effectivement difficile de signifier plus clairement l'embarras de notre gouvernement.
Merci beaucoup Pierre-Anne. Voilà donc pour les Suisses et les suites aussi de la pandémie en Suisse. Merci à tous. L'accent des autres va se refermer ici. C'était les grandes lignes de l'actualité francophone avec les médias francophones publics, RFI, Radio-Canada, la radio-télévision suisse, France Inter et la RTBF. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous comme d'habitude, si vous le voulez bien, la semaine prochaine à la même heure.